Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré à la question blanche. À l'ordre du jour ce soir, antiracisme, y a-t-il une question blanche? Depuis l'année dernière et la parution du livre de Nell Irvin Painter sur l'histoire des Blancs, un grand nombre d'ouvrages, très nombreux, traitent de cette question blanche. En attendant celui de Pascal Bruckner sur la construction du bouc émissaire blanc qui va combattre la notion de blanchité, Lilian Thuram publie « La pensée blanche » dans lequel il historicise le fait d'être blanc. Il interroge la construction d'une identité blanche que les Blancs eux-mêmes ne veulent pas voir mais dont la négation empêche, selon lui, l'avènement d'une société plus égale où les discriminations de race ne s'ajouteraient pas à celles de sexe ou de classe. Une question d'actualité d'ailleurs, quand le texte de loi à venir sur le séparatisme vise, selon le président de la République ou encore le ministre de l'Intérieur, autant les suprémacistes blancs que les intégristes islamiques. Mais une question qui divise d'abord le camp des antiracistes, et ce sera d'ailleurs la question que nous allons aborder en compagnie d'Emmanuel De Bono. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, vous tenez le blog du Monde au cœur de l'antiracisme et vous êtes récemment devenu rédacteur en chef du DDV, le droit de vivre, le journal historique de la LICRA, et vous participez également à l'association Alarmée qui s'inquiète justement du racisme et de l'antiracisme à l'université. Avec nous également Myrna Safi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur à Sciences Po, directrice de l'OSC, l'Observatoire sociologique du changement, et avec nous également Lilian Thuram, bonsoir.
Bonsoir.
Votre essai donc s'intitule La pensée blanche. Il est sorti le 1er octobre aux éditions Philippe Ray.
Tout le monde dit qu'on est né, on ne se rend pas compte qu'on est noir. Il faut que quelqu'un vous explique ça un jour. Il t'appelle sa nègre quand tu as 5 ans, 4 ans, 7 ans. On ne demande pas pourquoi on m'appelle nègre, mais on demande comme s'il n'y a rien passé. Qu'est-ce que ça va dire, ça, nègre? Mais évidemment, le père et la mère se comprennent très bien qu'est-ce qui est arrivé. Et il essaie de te faire comprendre que c'est qu'un mot. Mais il y a quelque chose qui a déjà commencé.
Vous aurez reconnu la voix de l'écrivain James Baldwin, extraite d'une série de LSD sur France Culture, Black America, le feu, que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. Alors, ce que dit James Baldwin, c'est « on est né, on ne se rend pas compte qu'on est noir ». Et le bandeau sur la pensée blanche, c'est « on ne naît pas blanc, on le devient », Lilian Thuram.
Ben effectivement, moi j'ai eu la même expérience, c'est-à-dire que je suis né en Guadeloupe, j'arrive à l'âge de 9 ans, dans la région parisienne. Mmh. Et c'est dans cette classe de CM2 que tout d'un coup, des enfants m'insultent de sale noire. Et je rentre à la maison, je demande des explications à ma maman, et elle me donne une très mauvaise réponse. Elle me dit, tu sais, c'est comme ça, les gens.
C'est comme James Baldwin.
Ça ne va pas changer.
Ouais.
Et donc, pendant des années, j'ai essayé de comprendre pourquoi les personnes noires étaient infériorisées. Et j'ai fini par comprendre que c'était le fruit de l'histoire. Et il y a quelques années, je dois avouer que j'ai retourné la caméra sur ces enfants qui m'avaient insulté. Et je me suis dit, tiens, à 9 ans, ils avaient intériorisé que être noir était moins bien. Ils avaient intériorisé qu'ils étaient blancs eux-mêmes. Et ils avaient surtout intériorisé que... ils avaient intériorisé aussi l'idée qu'être blanc, c'était mieux. Et donc, moi, j'ai essayé de chercher pourquoi, en fait, ces enfants de 9 ans avait intériorisé cela.
Emmanuel De Bono, vous qui suivez la question de l'antiracisme, qu'est-ce qui explique que le 14 octobre sortira le livre de Pascal Bruckner, Un coupable presque parfait? Je crois que vous avez dialogué avec lui pour un journal très récemment, c'était ce matin.
Oui, exactement.
Lilian Thuram, voilà, vous n'étiez pas forcément d'accord. On sortira le 8 octobre Racisme en France, sous la direction d'Omar Slaouti et d'Olivier Lecour Grand Maison. Afropéa, utopie post-occidentale et post-raciste de Léonora Miano vient tout juste de sortir. Pauvre petit blanc de Sylvie Laurent vient de sortir et ça traite de l'Amérique blanche en l'occurrence, et on a sorti il y a très peu de temps Fragilité blanche de Robin DeAngelo aux éditions Les Arènes. Qu'est-ce qui explique qu'on s'intéresse d'un seul coup à cette question de la blanchité, de la question blanche telle qu'elle est abordée par Lilian Thuram?
Alors en France, c'est quelque chose d'assez récent.
C'est récent.
Voilà. Aux États-Unis, je crois que ça, effectivement, il y a quand même quelques décennies qu'on en parle, ou qu'on voit effectivement les choses autrement. Mais c'est normal puisque aux États-Unis, on n'a pas non plus la même histoire, ni la même. Ces questions de racisme ne prennent pas exactement la même forme. Je n'ai pas dit que c'était plus grave ou moins grave, etc. Je reste vraiment factuel. Simplement, effectivement, on a vu à la faveur du meurtre de George Floyd et de la traînée de poudre que ça a entraîné en France avec la mobilisation autour du comité Adama Traoré, qu'il y avait d'une certaine manière un écho assez fort. Alors certains effectivement ont jugé que c'était de l'opportunisme, d'autres et en fait non, ou pas que. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement en discuter. Il y a eu des gens finalement très 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 différents qui sont venus s'agréger en fait sur cette plateforme de protestation, et on voit qu'effectivement il y a quelque chose qui s'exprime, qui est certainement authentique, mais qui dans ses traductions conceptuelles, puisqu'on parle effectivement beaucoup de blanchité, de privilèges blancs, on parle de férocité blanche à travers une publication, je ne sais pas si vous l'avez citée, et finalement c'est quelque chose qui questionne et sur lequel on n'est pas obligé d'être fondamentalement d'accord dans le cadre de la lutte antiraciste. Et de ce point de vue-là, j'avoue que je n'ai pas lu le livre de...
On va y revenir, effectivement, parce que c'est le cœur de notre émission. Mirna Safi, vous êtes chercheuse, je l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez donc à l'Observatoire sociologique du changement que vous dirigez à Sciences Po, et vous êtes prof à Sciences Po, et vous avez participé en particulier à cette enquête qui s'appelle Trajectoire et origine 2, celle qui a été publiée... Enfin, qui a été faite l'année dernière, et qui, justement, s'attache à essayer de comprendre dans un pays, et cela, c'est particulier à la France, qui refuse les statistiques ethniques, s'il y a, justement, des questions de racisme liées à la couleur de la peau entre blanc, noir et d'autres racismes potentiels, Mirna Safi. Et justement, ça fait partie de votre travail que de réfléchir à cette question de comment on fait dans une société pour déterminer ce qui est blanc, ce qui ne l'est pas, puisque comme on avait pendant de très nombreuses années au XVIIIe siècle essayé de catégoriser des couleurs de peau noires toutes différentes, et là-dessus il y a tous les travaux en particulier qui ont été menés par Papendiaï, et bien on pourrait se poser la même question pour la blanchité, en l'occurrence Mirna Safi. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette approche française particulière de la question de la couleur de peau, telle que vous pouvez peut-être la percevoir dans les enquêtes que vous pouvez faire?
En fait, j'ai l'impression que dans les sciences sociales, comme ça a été dit, c'est pas nouveau. En réalité, c'est quelque chose qui date depuis les années 60 au moins, en fait. C'est une idée très simple à l'origine, c'est-à-dire que dès qu'on s'attelle à la question raciale avec les sciences sociales, c'était Frédéric Barthes qui avait été le premier à utiliser le terme. Si on s'intéresse il faut s'intéresser de part et d'autre à la frontière. Mmh. Et donc, en fait, de facto, on sait qu'on a eu du retard au début. Effectivement, les questions raciales ont été analysées surtout en étudiant les groupes minoritaires, et puis on s'est rendu compte que effectivement la construction, si on adhère à une idée de construction raciale, il faut quand même regarder de part et d'autre de la frontière, et encore plus que ça, il faut regarder plus la frontière elle-même que le contenu des groupes, c'est-à-dire vraiment, c'est un peu ce que fait dans cet ouvrage Lilian Thuram, j'ai l'impression, c'est essayer de raconter un peu quels sont les épisodes qui peuvent être identifiés comme des épisodes qui ont construit cette frontière. Là, il y a une autre question, c'est plutôt la question de savoir est-ce qu'il y a une identité blanche, est-ce qu'il y a une appartenance, un sentiment d'appartenance. Et là, les sciences sociales ont des outils et on a des questions, et ça existe depuis très longtemps, que ça soit des outils qualitatifs ou quantitatifs dans les enquêtes, sur est-ce que les personnes se sentent appartenir à un groupe blanc. Et si je peux dire juste deux mots très rapides là-dessus, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choses directes en France dans les enquêtes statistiques. Vous savez tous pourquoi, mais on sait par exemple aux États-Unis que c'est très automatique. L'identification dans les référentiels est très stable, l'identification au groupe blanc. Et on sait par ailleurs quelque chose de très intéressant, que l'identité blanche est considérée comme moins importante pour les personnes qui s'identifient à la question blanche, que par rapport à la minorité. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire autrement, les personnes qui s'identifient à des groupes raciaux minoritaires pensent que leur identité raciale est très importante. Ce n'est pas le cas pour les Blancs, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, elles passent un peu au deuxième plan. Les personnes s'identifient au groupe blanc de manière assez automatique. Mmh. Par contre, ils ne considèrent pas que c'est très important. Or, pour les groupes minoritaires, c'est très important.
Et c'est d'ailleurs le problème que vous pointez du doigt dans La Pensée Blanche, Lilian Thuram. Vous dites, ben voilà, les Blancs ne se sentent pas blancs ou ne se pensent pas blancs. Et il faut, d'une certaine façon, redonner cette image-là, essayer de leur faire comprendre qu'ils appartiennent à un groupe qui est certes majoritaire dans les pays comme le nôtre, mais que ce groupe, justement, il s'est constitué en opposition ou en créant cette frontière dont parlait à l'instant Myrna Safi.
Bah, tout d'abord, il faut savoir que, par exemple, en France, dans les écoles, jusqu'en 1950, on apprenait qu'il y avait une race supérieure et que c'était la race blanche. C'est-à-dire que les livres scolaires ont été édités jusqu'en 1977. Donc ça veut dire qu'il faut prendre conscience que cette histoire est très très proche de nous. Pour vous donner un petit exemple sur le fait de ne pas se voir à travers sa couleur de peau lorsqu'on est une personne dite blanche, je vous raconte, un soir, je téléphone à mon meilleur ami d'enfance et je lui dis « Dis-moi Franck, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as le sentiment d'être blanc ?» Il me dit « Quoi ?» Je dis « Bah Franck, je suis noir. » Il dit « Bah ouais, si je suis noir, toi tu es quoi ?»« Bah je suis normal. » En fait, c'est ça en fait, la normalité. Et en fait, lorsque vous avez le luxe de ne pas questionner votre catégorie de couleur de peau, ça veut dire que quelque part, vous êtes dans une certaine normalité. Et c'est ce qui est extrêmement dangereux.
Et donc le lien entre cette question d'être blanc et de ne pas se penser blanc et cette pensée blanche que vous mettez au cœur de votre livre, Lilian Thuram, c'est quoi cette pensée blanche? Est-ce qui aurait construit justement cette normalité en ne pensant pas à cette blanchité? C'est quoi?
Mais en fait, effectivement, c'est pour dire aux gens qu'ils ne se rendent pas compte que la couleur dite blanche n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que lorsque mon fils, par exemple, Kéfren, avec 4-5 ans, je lui dis « Mon chéri, dis-moi, tu es le seul noir de ta classe ?» Il me dit « Mais papa, je ne suis pas noir, je suis marron. » Je lui dis « Mais les os de ta classe, ils sont de quelle couleur ?» Il me dit « Bah, ils sont roses. » Et donc, c'est dire que c'est une construction politique, la couleur blanche. Et c'est daté, c'est-à-dire qu'on peut dater le moment où on a catégorisé les gens à travers leur couleur de peau. Et c'est une volonté politique et économique. C'est pas quelque chose de naturel. Voilà.
Emmanuel de Bono, en quoi, alors que vous êtes un militant de l'antiracisme, que vous êtes le rédacteur en chef du journal de la LICRA, que vous travaillez à cette association alarmée, en quoi cette question de blanchité ou de question blanche pose une question à l'antiraciste que vous êtes?
Alors, j'essaye d'abord, enfin, c'est pas pour vous reprendre, mais je pense qu'effectivement, je suis militant. Je pense qu'en fait, sur ces questions-là, on est forcément toujours un peu militant. Ça explique qu'il y ait autant de divisions aussi au sein du monde antiraciste. Cela étant, je ne suis pas militant à la LICRA. Je suis maintenant engagé sur la question du journal, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. Simplement, sur la blanchité et sur le tour, juste pour corriger ce qu'a dit Lilian, si je peux me permettre, par rapport autour de la France par deux enfants. Effectivement, il paraît en 1877, effectivement, il sert de manuel pour apprendre à lire, et effectivement, il va y avoir un certain nombre de rééditions. Tardi, il y en a même eu une en 2012, je crois, préfacée par Jean-Pierre Rioux. Voilà, avec trolisant effectivement de la critique. Je pense qu'il y a quelque chose que... Et là, je vais me permettre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, donc de
aussi
un peu les pieds dans le plat. C'est embêtant, parce qu'on a une première page avec quatre citations, et deux d'entre elles sont... Il y a une citation de Victor Hugo qui est assez accablante pour l'écrivain.
Alors, oui, je vais les citer. Oui, la race blanche la plus parfaite des races humaines, c'est dans ce manuel donc réédité donc de Bruno, Le cours moyen, le tour de la France par deux enfants. Le blanc a fait du noir un homme, c'est de Victor Hugo, son histoire sur l'Afrique. Et puis ensuite, un Clémenceau, oui, sans doute, il y a une guerre des races, mais qui l'a commencé et qui la poursuit. Et enfin, Denis Goldberg, donc un entretien au journal La Croix. On peut placer l'idéal de liberté au-dessus de sa propre vie. Pour moi, on ne peut pas être libre si les autres ne le sont pas.
Alors, le problème avec la citation de Hugo, c'est... Elle est réelle, elle date de 1919. Et le problème, c'est est-ce qu'elle résume l'œuvre de l'écrivain? Est-ce que le fait de la mettre en exergue Ça va être un petit peu, à mon avis, tout le problème de votre livre. C'est-à-dire que vous prenez des morceaux de phrases. Alors, il y a évidemment d'authentiques racistes, il y a d'authentiques personnes qui défendent la domination coloniale. Mais là, commencer justement avec Hugo, qui est quand même un écrivain militant aussi, qui a passé toute sa vie aux côtés, à défendre l'émancipation des peuples, des individus, etc. Et donner l'impression finalement qu'on va, on va montrer aussi ce que Hugo a de mauvais, de même que le Tour de France par les deux enfants, le manuel scolaire, il est plus en vigueur. Les enfants en 1977 ne le lisaient pas. C'est pas un livre qu'on avait.
1950, je viens de le dire.
Non, vous avez dit après.
Édité.
Emmanuel, est-ce que vous pouvez dire oui, le problème, c'est qu'il y a une forme d'ambiguïté. Et je crois qu'en fait, on trouve dans le livre.
Réédité tel quel jusqu'en 77. Ça ne veut pas dire qu'effectivement on l'a lu. Mais
non, voilà. Manuel scolaire réédité jusqu'en 77. Ouais. Ce qui n'est pas rien. Ouais. Ce qui est pas rien. Et le problème de la blanchité, juste un mot, pour moi, c'est un concept. Il n'y a pas d'issue. C'est quelque chose qui est une contraction de identité blanche, blanchité, on comprend bien. On sait que la judéité, si on va essayer de la définir, on trouvera évidemment des choses positives, parce qu'une judéité, ça se définit positivement, comme l'islamité. Par contre, blanchité, effectivement, qu'est-ce que c'est? C'est l'hégémonie culturelle, économique, sociale.
Mais quand ça s'appelle la pensée blanche, c'est la blanchité pour vous? C'est la même chose? Myrna Safi, vous qui l'avez lu aussi, cette pensée blanche de Lilian Thuram, et qui travaillait sur ces questions, qu'est-ce que vous pensez justement de cette approche, en tous les cas, et de la distinction qu'en fait à l'instant même Emmanuel de Bonneau?
Pour moi, pensée blanche, c'est pas synonyme de blanchité. Je suis pas sûre d'adhérer complètement à l'expression pensée blanche. C'est vrai qu'on, dans le livre, on sent une forme de peut-être d'intentionnalité, mais c'est un peu propre aussi à la manière dont c'est écrit. Et c'est peut-être ça s'accentue un peu à la fin du livre. Moi, j'aurais envie de mettre un peu plus de contingence dedans, mais peut-être qu'on peut en discuter après. Je pense qu'il y a des choses très naturelles, en fait, aux catégorisations ethno-raciales. On les voit partout, dans toutes les sociétés. La question, c'est quand ces catégorisations deviennent adossées à des systèmes...
De lois, de législation, voilà, de droit.
De distribution de ressources économiques. Et donc voilà, c'est ça que je pense que le livre essaye de dire. J'aurais pas utilisé pensée, mais je pense que s'il s'agit de savoir s'il n'y a pas des répertoires, un système de valeurs, des références symboliques, mais aussi, il faut en parler, une structure sociale qui est quelque part, qui bénéficie, pour ne pas dire aller au service, mais qui bénéficie au groupe blanc aujourd'hui, je pense qu'il ne peut pas nier ça. Et par ailleurs, c'est un peu la même chose quand on dit qu'il y a des référentiels, une culture, des structures sociales qui bénéficient aux riches. Hein. C'est pas très très différent de ça. Donc je pense que...
Oui, ce qui est très intéressant, Lilian Thuram, c'est que quand on entre sur cette question de la race dans la société contemporaine, on se trouve, comme vous d'ailleurs... c'est père gardez-vous à gauche, père gardez-vous à droite. C'est-à-dire qu'il y a une opposition qui vient du conservatisme et de la droite, et une opposition qui vient de la gauche, qui dit ça n'est pas le bon usage, ça n'est pas la bonne façon de faire. Parce que, par exemple, on se souvient, et je crois que vous le citez dans La Pensée Blanche, je crois que l'avoir lu chez vous, on se souvient que Gérard Noiriel, qui ne peut pas être accusé d'être quelqu'un d'extrême droite, en l'occurrence, ni même de droite, Gérard Noiriel, qui a toujours combattu à gauche et à l'extrême gauche, considère que cette catégorie de la race, par exemple, cette utilisation, ça empêche de voir la question de la classe. Et donc que la vieille opposition entre les prolétaires, les gens qui se trouvaient dominés par leur force de travail, par les plus riches, eh bien, passe à l'as en mettant en avant la question de la race, et donc cette question blanc-noir, par exemple.
Effectivement, je pense qu'on peut expliquer la problématique sociale. Mais il y a aussi une problématique liée à la couleur de la peau. C'est pas moi qui l'invente. C'est-à-dire que si jamais, jusqu'en 1950, on apprend dans les classes en France qu'il y a une race supérieure, mais c'est évident qu'il y a des préjugés qui restent dans la société. C'est pas parce qu'il n'y a plus de loi qu'il n'y a pas des habitudes. Si vous avez pendant des siècles eu un racisme d'État en France, on ne peut pas s'en sortir comme cela. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le Code noir, 1685, qui va jusqu'en 1848, quand vous enchaînez avec le Code de l'indigénat, c'est tout à fait compréhensible. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, soyons tranquilles, soyons sereins, discutons. Il est obligé d'avoir des préjugés selon la couleur de la peau aujourd'hui. S'il y a des enfants aujourd'hui qui se font insulter de sale noire, c'est qu'il y a un problème. Donc, prenons conscience de ce problème pour échapper de ces identités de couleur de peau.
Emmanuel de Bono.
Bien sûr, prenons conscience. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a ce regard et la citation de Baldwin. Effectivement, Baldwin, au début, effectivement, est tout à fait... il faut réfléchir dessus. Il faut réfléchir... Bien sûr, le problème, c'est en fait d'enfermer le sujet dans cette question de la pensée blanche. La pensée blanche, je suis désolé, j'ai cherché un petit peu en vain, au début du livre, le moment où vraiment vous définissez ce que c'était. Et je crois qu'en fait, il manque cet aspect vraiment de conceptualisation. Et il a fallu... Je l'ai lu rapidement, mais enfin, je l'ai lu ce week-end.
C'est
si vous voulez,
trop
je l'ai... excusez-moi. j'engage les lecteurs aussi à acheter-le. Page 291, la pensée blanche, rappelons-le, est un filtre idéologique, etc. Oui. Sauf que dans ce livre, c'est un livre à charge. Je suis désolé. C'est un livre où on voit les blancs. Ça, c'est l'avantage du PDF. Les blancs, 119 fois les blancs. 119 fois. Les blancs pensent ceci. Alors le problème Lyon,
c'est l'avantage du PDF. Ouais, j'ai pas vérifié, j'ai lu dans l'ouvrage.
Non, mais à aucun moment on a cette quantification. Attendez, on passe de certains blancs à la majorité à les. Bah si, je suis désolé, les blancs c'est 119 fois. Je peux vous dire même pour les, je l'ai noté, c'est pour le mot blanc lui-même, c'est constamment en fait sur les blancs pensent ceci, etc. Donc il y a quand même un problème d'essentialisation qui est gênant, je trouve, du point de vue de la comment dire. Si le fond de votre démarche est effectivement de combattre les préjugés, je trouve de ce point de vue-là, vous les consolidez quand même d'une certaine manière, ou vous en construisez.
L'identuram.
Alors, tout d'abord, je pense que vous avez lu effectivement le livre trop rapidement.
435 blancs. Hein.
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'encore une fois, tout au long du livre, j'essaie d'expliquer que ces groupes ont été constitués par une minorité de gens, par des politiques et des financiers, pour pouvoir exploiter la majorité des gens. La pensée blanche est une construction. Vous savez très bien qu'en psychologie sociale, à partir du moment où on crée des groupes, on va défendre son groupe. Mais il faut dire qui a créé ces groupes. Et j'essaie de dire que ces groupes n'ont rien de naturel. Et on a mis en place des systèmes au nom des Blancs. Mais comme je rappelle dans le livre, l'esclavage n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes. C'est un système économique mis en place par une minorité de gens.
Vous le dites absolument. Absolument.
Comme je le dis, la colonisation, c'est un système politique et économique mis en place par une minorité des gens. J'explique que la grande majorité des gens, qui sont paysans, ouvriers, ne participent pas à ça. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention, et peut-être que vous avez mal lu mon livre.
Non, je ne crois pas.
Et ce qui est très important, non, c'est très important, parce qu'encore une fois, justement, je ne tombe pas dans ce piège et dire aux gens, faites très attention. Le racisme a toujours été une construction politique. Toujours. Toujours. Et ce sont des politiques qui décident de construire des lois qui vont éduquer la grande majorité de la population. Après, lorsque je parle de la pensée blanche, si vous avez bien lu mon livre, je dis que cette pensée, même les personnes noires l'ont. Et je donne des exemples en disant que lorsque j'étais joueur de foot, par exemple, on rentrait sous la douche, il n'y avait que des joueurs noirs. Et en fait, certains disaient « Oh, t'as vu, t'es trop noir, moi je suis plus métisse, je suis mieux. » Je suis d'une société antillaise où effectivement, on a éduqué
ma maman. La gradation
exactement.
Des couleurs de peau, bien sûr.
Donc, effectivement, je pense que lorsque je parle de pensée blanche, je parle d'une pensée qui nous a enfermés tous. Peu importe la couleur de peau.
Voilà, c'est le tous qui est...
Mais tous, toutes les personnes de toutes les couleurs.
Mais on n'est pas obligé d'adhérer à cette idée. On n'est pas obligé d'adhérer à un héritage éternel, à une culpabilité transgénérationnelle. Vous parlez... Attendez, je suis désolé. À un moment,
culpabilité
vous adressez au lecteur. Le blanc, c'est le descendant des colons.
Ah non.
Ah bah si. Ah bah ça,
Écoutez-moi bien.
PDF.
Je viens de vous dire... que justement, je dis que la grande majorité des personnes dites blanches n'ont pas participé à ces projets politiques.
Mais ce n'est pas l'impression qui ressort des lignes.
Non, mais c'est parce
Il y a tout de même, je peux citer, je vais pas en défense de Lilian Thuram, sans haine, sans sectarisme, sans mauvaise foi, qui nuisent à un bon échange d'idées. Donc, sans haine, sans sectarisme, sans mauvaise foi, on va écouter Beyoncé.
Try to touch this. What is beat is crazy. This is how they make me. Houston, Texas, but débat. Emmanuel Laurentin.
Who Runs the World de Beyoncé, ce sont les filles qui dirigent le monde d'après Beyoncé, mais c'est aussi, et on le sait depuis son show à Coachella, la question effectivement de la place des Noirs dans la société américaine qu'elle a portée très haut dans ce show absolument extraordinaire qu'on peut voir sur Internet. Nous sommes pour parler de l'antiracisme et de la question blanche avec Lilian Thuram, avec Emmanuel de Bono, on vient de les entendre. Myrna Safi, vous qui êtes sociologue et professeure à Sciences Po, ainsi que directrice de l'Observatoire sociologique du changement, comment on établit ces questions de discrimination dans une société qui ne veut pas trop en entendre parler? Comment fait-on aujourd'hui pour savoir s'il y a, comme le dit Lilian Thuram, et comme on en parle depuis le début, des discriminations, des séparations qui sont liées à cette question des Blancs et des Noirs dans notre société, alors que dans la société américaine, c'est peut-être plus simple à déterminer?
Alors, on arrive à bien le faire. Maintenant, en France, hein, il faut être très honnête là-dessus, on a beaucoup avancé. Et les faits sont très clairs. Hein, je veux dire, dans certains domaines, en tout cas dans le marché sur le marché du travail, on a clairement aujourd'hui des indicateurs robustes avec des études répétées et même des analyses comparatives. J'en profite pour donner un chiffre, c'est que la France, en fait, aujourd'hui, quand on regarde les méta-analyses, il y a une étude qui est sortie qui compare 9 pays. La France est vraiment tête de peloton en termes de discrimination sur le marché du travail. Donc on a
sur 9 pays,
y compris les États-Unis, le Royaume-Uni. Hein, donc on est autour de deux fois plus. Donc, il faut envoyer deux fois plus de CV pour recevoir un coup de fil en France. Et on sait que les études qui regardent, qu'il y a une étude qui a pu identifier plus la discrimination anti-musulmane, qui a trouvé des taux plus élevés en France. Donc, je pense qu'établir les faits en France, on a un petit peu dépassé ça. Mais on n'a pas assez de données. C'est-à-dire, on arrive aujourd'hui. On s'en plaignait avant.
Oui. Enfin,
moi, je fais partie d'une génération.
Si on n'avait pas de données.
Voilà, on s'en plaignait. Et maintenant, on a des données. Bon, on n'a pas des données parfaites. On a des données qui passent par des proxys. C'est ce qu'on dit souvent en sciences sociales. Désolé du jargon. C'est-à-dire qu'on passe par d'autres variables que des variables de mesure directe de la race. Alors, ça peut gêner beaucoup quand on travaille sur les frontières ethno-raciales ou sur la blanchité du utiliser effectivement des catégories comme par exemple le fait Lilian Thuram utilise le mot blanc, ou il utilise le mot noir, il parle de la pensée blanche, de la blanchité, il utilise beaucoup ça. Donc c'est évident que c'est vraiment, ça pose des problèmes. Il faut effectivement définir les catégories, expliquer ce qu'elles sont, comment on les entend, etc. En France, ce qui nous manque aujourd'hui dans les données, c'est qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur l'identité. C'est le sujet un peu du livre. C'est-à-dire, on ne demande pas beaucoup de choses. On n'arrive pas, encore dans les enquêtes de statistiques publiques, en tout cas, à poser des questions sur l'identité. On a beaucoup d'informations dans les enquêtes qualitatives qui sont très précieuses, mais elles ne permettent pas...
Qu'est-ce que vous appelez l'identité, alors?
C'est-à-dire, en fait, le sentiment d'appartenance à un groupe et la fluidité de ce sentiment d'appartenance. Ce qui est très, très intéressant dans les données ethno-raciales, c'est que c'est pas seulement pour figer la société, mais c'est aussi pour travailler sur le passage, en fait, dans les...
C'est-à-dire, si vous pouvez me demander, est-ce que vous vous sentez blanc, par exemple?
Oui, par exemple.
Et qu'est-ce que ça fait de se sentir blanc? Ça serait ça, les questions?
Tout à fait. Et un point intéressant dans ce que raconte un peu Lilian Thuram dans le livre, c'est le changement de point de vue. On sait, par exemple, pour mesurer, pour répondre à votre question, le changement de point de vue est très important. Il faut demander aux personnes elles-mêmes de dire comment elles se sentent. Il faut aussi demander ce qu'on a arrêté de faire pendant longtemps et maintenant on revient à le faire. Il faut demander aussi à l'enquêteur de dire comment il perçoit les gens. Et l'usage de ces données n'est pas le même. Et le recoupement de ces données n'est pas le même. On sait même que les gens ne se déclarent pas pareil si on les interroge sur ces questions en communauté, avec leur famille, à l'école, au travail, etc.
Ou seul.
Donc on peut travailler sur ces questions en sciences sociales pour comprendre en fait les registres de l'identification à des groupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les facteurs qui les influencent? Par exemple, on sait que la mobilité sociale influence l'identification raciale. On le sait, on le voit dans les analyses. Aux États-Unis, il y a des
études... C'est-à-dire que plus on grimpe dans l'échelle sociale... Plus
l'identification
au groupe minoritaire.
Ça ne veut pas dire que c'est une règle, mais on observe ça dans certaines sociétés. Je ne peux pas vous dire si en France c'est valide. Je ne suis pas sûre. En revanche, il y a des études aux États-Unis qui montrent que, par exemple, un passage en prison augmente l'identification à un groupe minoritaire. Pourquoi? Et on a des explications, on a des mécanismes qui permettent de comprendre ça par la psychologie sociale, par les sciences, la sociologie, etc.
Emmanuel de Bono, qu'est-ce qui vous gêne dans cette approche-là, en tout cas dans cette approche qui permet permet justement de définir que ces discriminations sont portées par une société vis-à-vis d'un groupe minoritaire ou vis-à-vis de tout autre groupe.
Non, j'entends des choses évidemment tout à fait intéressantes. La seule question que je me pose, c'est dans la traduction concrète. C'est-à-dire que une fois qu'on a décidé, soit par un comptage, un autocomptage ou un exocomptage en fonction de si on se définit soi-même, si on choisit sa couleur, etc. J'ai peur qu'on soit dans quelque chose qui soit vraiment performatif.
Alors je sais très bien que on devienne ce que l'on dit qu'on est.
Ah bah oui, parce qu'à force de le répéter, c'est le principe du racisme. Hein. On est au cœur du sujet. Lilian, dans votre livre, vous dites. C'est factuel. Il faut des chiffres. Donc, quand on vend des yaourts et qu'on a besoin, c'est votre exemple, ou lorsqu'on veut savoir combien de personnes croient aux extraterrestres, on leur pose la question et on fait pas tant de manières. Le problème, c'est qu'effectivement, des yaourts, velouté, brassé, on s'en fout. La question, là, est-ce que lorsqu'on a 50 nuances de blanc, lorsqu'on a des parents, lorsqu'on a une lignée un peu complexe, est-ce que automatiquement on doit se définir? Est-ce qu'on doit forcer les gens finalement à exprimer quelque chose de ce point de vue-là? Je trouve qu'il y a vraiment un
Ben écoutez, moi je pense que si nous voulons savoir la réalité des discriminations, il faut juste discuter avec les gens. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où certaines personnes vous disent qu'on ne voit pas la couleur de la peau.
Mais discuter, il n'y a pas de problème.
Ça, c'est extrêmement dangereux en fait. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas la couleur de la peau d'une personne, vous ne savez pas les difficultés que cette personne peuvent rencontrer.
Je ne peux que être d'accord avec vous.
Exactement, dans la société. Ouais. Et c'est pour cela que j'essaie de dire, voilà, nous sommes le résultat d'une histoire. Est-ce qu'on peut discuter de ces sujets pour passer à autre chose? Parce qu'il est temps de passer à autre chose.
En réhabilitant la race, c'est problématique.
Et comment?
En réhabilitant...
Non, on ne réhabilite pas la race. Non.
Vous pouvez dire que c'est une construction sociale. Vous pouvez dire que c'est
ça. C'est ce que dit Lilian Thuram, c'est une construction sociale.
Oui,
bien sûr.
Qui croit à ça? Excusez-moi.
Comment ça, qui croit à ça?
Changeons le nom, alors. Utilisons quelque chose d'autre que la couleur.
Vous savez, les discriminations, très souvent, sont faites sur... La couleur de peau.
Mais la couleur, c'est une réalité. Donc, quand vous êtes.
Non, mais. Attendez. C'est pas une réalité, en fait.
Le parcours individuel. Le libre arbitre de la personne. C'est-à-dire, son histoire personnelle qui peut être extrêmement complexe. Est-ce que, du coup, il est blanc, donc, du coup, on va le percevoir forcément
comme un
dominant, un oppresseur.
Je vais vous donner un exemple.
C'est embêtant.
Vous savez, mon fils, dernièrement, a changé de club. Et sa maman téléphone à une agence pour visiter un appartement. Et cette dame lui dit. Vous inquiétez pas, c'est un bon quartier, il n'y a pas de noirs et d'arabes.
Oui, ça dans
ça, les... c'est la discrimination telle qu'on la
disait. Oui, non, mais c'est pour ce que je dis, c'est-à-dire que dans l'inconscient collectif.
Oui, mais on disait aussi qu'il y avait aussi des gens à cette époque-là qui combattaient les préjugés.
Mais depuis toujours, c'est ce que je dis dans le livre.
Mais c'est pas si évident que ça.
Oh mon Dieu.
Si, pour la partie.
Vous savez,
c'est le livre noir des crimes coloniaux.
Mais il y a un chapitre qui s'appelle Le suicide de la race.
Oui, c'est le chapitre.
Il y a un chapitre qui s'appelle Le suicide de la race. Où je dis que chacun de nous devons avoir le courage de se suicider et enlever cette connotation liée à la couleur de la peau. Je cite par exemple Frantz Fanon, qui dit encore une fois très clairement, il faut avoir le courage de sortir de ces prisons identitaires pour qu'on puisse se rencontrer. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se rencontrer pour créer en fait une autre solidarité?
Myrna Safi, vous l'avez lu ce livre de
Lilian
Thuram sur la pensée
blanche. Je ne voudrais pas défendre Lilian Thuram parce que même si mes garçons seront très contents. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question intéressante qui se pose. C'est est-ce que c'est important de parler de l'histoire de la race, comme vous venez de dire? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ça réhabilite pas une certaine vision de la race qui est aujourd'hui dépassée? Est-ce qu'il faut utiliser le même mot, etc.? C'est des débats qu'on entend beaucoup. Moi, j'ai envie de dire, essayons de réfléchir à comment on peut avoir l'utilité de cela. Et ça, il faut un peu essayer de le mesurer. Aujourd'hui, l'histoire, c'est effectivement, on peut la raconter, mais aussi, on peut voir dans quelle mesure elle influence le présent. Et ça, on peut le mesurer. Par exemple, aux États-Unis, récemment, on a une étude qui a démontré que, je ne sais pas si vous connaissez le test d'association implicite, c'est-à-dire le degré auquel, donc c'est qu'on appelle les biais inconscients. Mm-hmm. On a un échantillon assez large, c'est une étude qui a été publiée dans une très bonne revue PNAS, donc Proceedings of National Economic Association of Science, qui en fait montre que le test d'association implicite est corrélé, le degré de biais implicite est corrélé donc avec des données en 1860 sur le nombre d'esclaves à l'échelle des counties et des États aux États-Unis, et qui montrent en fait que en réalité, les États qui dépendaient le plus d'esclaves, c'est là aussi on voit des billets implicites en faveur des Blancs, qui sont les plus forts. Qu'est-ce que ça c'est des corrélations, c'est pas de la causalité.
Cette histoire de ces États donne, chez ceux qu'on interroge aujourd'hui, quelque chose de
des
différent.
Des billets inconscients. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire forcément qu'on a démontré quoi que ce soit. On a juste dit, en fait, il y a quand même des structures historiques qui sont, en fait, corrélées aujourd'hui à des non-pensées. Pas seulement à une pensée. C'est pour ça aussi que je dis, peut-être le mot pensée est un peu trop fort. À des non-pensées qui aussi, aujourd'hui, on a
s'il avait titré la non-pensée blanche, je pense que ça n'aurait pas, ça ne serait pas passé
non plus. C'est-à-dire, à des choses qui vont de soi, qu'on ne remarque même pas. Et c'est important. On sait aujourd'hui, beaucoup, dans la littérature en psychologie sociale, que ces biais implicites sont corrélés à des comportements réels. Et que, effectivement, pour pouvoir s'en sortir, il faut quand même prendre conscience. Un petit peu d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pour ça que l'histoire, c'est important, parce que ça nous fait prendre conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on
soit. L'histoire est importante. Ça,
c'est un historien qui répond, Emmanuel de Bonneau, brièvement, et puis Lilian Thuram, on arrive bientôt à la fin.
Oui, c'est important, parce qu'effectivement, il faut contextualiser toute cette histoire. Je vous donne juste un exemple comme ça. En France, on a tendance à penser qu'en fait, avant la fin des années 90, les discriminations étaient quelque chose qui était tout à fait hors des débats intellectuels et politiques. On ne savait pas ce que c'était. Le mot n'existait quasiment pas et on ne les prenait pas en compte, on n'avait jamais réfléchi. En réalité, lorsqu'on fait de l'histoire, effectivement, il y a certainement un défaut aussi d'histoire de discrimination parce que quand on cherche dans la bibliographie, il n'y a pas grand-chose dans les années d'après-guerre. En 1959, Edmond Michelet, ministre de la Justice, dépose au nom de Michel Debré, Premier ministre.
Au cabinet duquel travaillait d'ailleurs Simone Veil, Edmond Michelet à ce moment-là.
Ouais. Dépose un projet de loi contre les discriminations. C'est compliqué. Et si vous remontez 20 années auparavant, enfin à la fin des années 40, vous avez des députés de l'Union française, on discute des discriminations. Ça ne veut pas dire que ça avance, mais ça veut dire que le sujet est déjà très très présent. Et vous avez des associations comme le MRAP ou comme la LICA qui vraiment amènent le sujet sur la table, font des enquêtes, etc. Je veux dire par là que c'est compliqué. C'est jamais les crimes coloniaux, quelque chose qu'on
Mais pourquoi ça serait gênant justement ce que fait Lilian Thuram que de mettre cela sur la table
parce qu'on voit que la face sombre. Non. Mais parce que c'est un choix de jamais pondérer. Il manque la complexité.
Lilian Thuram.
Écoutez-moi encore une fois. Historique. Je pense qu'il y a la complexité historique. Par exemple, je rappelle que de tout temps, effectivement, il y a toujours eu des gens pour dénoncer le racisme. De tout temps. Vous savez, il y a déjà des gens qui dénonçaient la police des Noirs en France au XVIIIe siècle. Il y avait une police des Noirs. Il y a des gens qui dénonçaient déjà cette police. Moi, je pense que peut-être il y a un petit problème dans la lecture du livre. Non, je vais vous dire pourquoi.
Très brièvement, on arrive au moins.
Parce qu'en fait, vous avez lu un mauvais titre. Le titre, c'est La pensée blanche, non La pensée des Blancs. C'est peut-être un malentendu sur le titre.
119 fois, les Blancs pensent que les Blancs... C'est...
Mais non,
merci. Merci achetez le livre, c'est Emmanuel de Bonneau qui parle. Achetez le livre de Lilian Thuram, publicité gratuite. Achetez-le. De toute façon, il y a matière à réflexion.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Emmanuel de Bonneau. Merci à vous, Myrna Asafi. Et merci à Lilian Thuram pour cette émission consacrée à l'antiracisme. Y a-t-il une question blanche? Une émission préparée par Chloé Cambrelin, Imane Gilles, Fanny Michel, Fanny Richer, pas Fanny Michel, Rémi Bay, et Hugo Boursier à la technique aujourd'hui, Michael Simon à la réalisation, Alexandre Manzanares.